Vous écoutez On lit pour vous.
Cinq bonnes raisons d'amener votre petit enfant jouer dehors. Par l'équipe de Naître et Grandir, paru le 21 mai 2026 dans Virage. Vous avez tout à gagner à amener votre petit enfant jouer dehors cet été. Que ce soit au parc, dans votre cour ou en forêt, le jeu libre extérieur a la cote. Améliorer ses habiletés physiques. Dehors, votre petit enfant bouge en moyenne deux fois plus qu'à l'intérieur. Être à l'extérieur lui donne le goût de courir, de sauter, de grimper et de lancer. Tous ces mouvements améliorent ses habiletés physiques. Développer sa confiance. Le jeu libre à l'extérieur incite votre petit enfant à prendre de petits risques, comme monter sur une roche ou sauter par-dessus une flaque d'eau. Cela l'amène à connaître ses capacités physiques et à tester ses limites. Affronter certaines peurs en jouant dehors, comme celle des insectes, développe aussi sa confiance en soi. Lui offrir des expériences stimulantes. Lorsque votre petit enfant joue dehors, le contact avec la nature est direct, ce qui nourrit sa curiosité et ses connaissances. Il est possible, par exemple, d'observer des insectes ou de petits animaux, de toucher la texture des arbres et de sentir l'odeur des feuilles. Son langage est aussi stimulé, car ce qui l'entoure peut l'amener à parler davantage et à poser des questions. Favoriser sa créativité. Pas besoin de jouets ni de matériel pour jouer dehors. Votre petit enfant se sert de son imagination et des éléments de la nature pour s'amuser. Construire une sculpture avec des roches, créer une fleur au sol avec des coquillages, jouer au restaurant en préparant une soupe avec des feuilles, des cailloux et de l'eau. Tout devient un jeu. L'aider à se sentir bien. Jouer dehors comporte des bienfaits pour la santé mentale de votre petit enfant. Bouger plus l'aide à mieux dormir, et cela a un effet positif sur son humeur. Des études ont aussi montré que le contact avec la nature apporte un sentiment de bien-être général. Cela libère les tensions et permet d'avoir plus d'attention et de concentration à d'autres moments. C'était 5 bonnes raisons d'amener votre petit enfant jouer dehors, par l'équipe de Naître et Grandir, paru le 21 mai 2026 dans Virage.
Six bonnes raisons de choisir les aliments de chez nous. Un texte de Daphné Laurier-Ouellette, paru le 29 mai 2026 dans le magazine Urbania. Il existe plein de raisons d'être fier d'être Québécois, et pas juste à la Saint-Jean ou quand les Canadiens se rendent aux séries. Céline, le rocher percé, les gagnants de Big Brother Célébrité et notre bouffe. Parce que la fierté québécoise, ça passe aussi par nos choix alimentaires. On peut exprimer sa fibre patriotique en chantant des classiques des cow-boys fringants, certes, mais aussi par nos choix de consommation. En effet, en optant pour des commerces qui font la promotion des produits d'ici, on encourage notre belle province. S'il faut encore vous convaincre, voici une liste des meilleures raisons d'ajouter des aliments du Québec à votre panier d'épicerie. Pour leur grande qualité. Au Québec, on produit du bon stock. Les normes québécoises qui encadrent la production et la transformation des aliments sont très strictes afin d'assurer la sécurité des consommateurs et la meilleure qualité possible. Les logos jaunes d'Aliments du Québec, facilement repérables chez Maxi, agissent comme des outils servant à identifier les produits de chez nous. En passant, saviez-vous que chaque produit est vérifié pour en valider l'origine ou le lieu de transformation avant de l'approuver? Le logo Aliments du Québec garantit un minimum de 85 % d'ingrédients locaux, tout en assurant que chaque ingrédient principal provient d'ici. Le logo « Aliments préparés au Québec » garantit quant à lui que la transformation est entièrement faite dans la province et que les ingrédients principaux sont locaux selon leur disponibilité. Bref, quand vous optez pour les aliments d'ici, vous pouvez être assuré que la qualité est au rendez-vous. Pour leur impressionnante variété. On connaît bien sûr le sirop d'érable, les pommes et les petites crevettes de matane. Miam! Mais le Québec produit bien plus que ça. En plus de fruits et de légumes, des produits céréaliers et laitiers, ainsi que de viande, on prépare également ici des produits transformés comme des pâtisseries, des confiseries, des mets préparés et des boissons. Tous ces produits ont été conçus au goût des Québécois par des transformateurs au savoir-faire confirmé. Psst! Observez vos produits chouchous. Vous consommez peut-être déjà plus de produits d'ici que vous ne le croyez. Pensez à votre bière préférée ou à votre bonne vieille mayo. Notre province offre aussi des aliments surprenants, voire méconnus. Alors, pourquoi ne pas tenter l'huile de caméline ou l'ail noir? Et la variété ne se limite pas aux aliments. Un même produit peut prendre plusieurs allures. Saviez-vous, par exemple, qu'on cultive au Québec plus de 20 variétés d'ail? C'est plus de 30 000 produits qui n'attendent qu'à être découverts et qui sont repérables grâce à leur logo jaune. Pas plate comme liste d'épiceries. Pour encourager le savoir-faire québécois. L'amour est dans le pré m'a appris que l'agriculture, c'est plus qu'un métier, c'est un mode de vie. Au Québec, nous avons la chance de pouvoir compter sur un impressionnant savoir-faire en matière de production alimentaire. Il faut beaucoup de travail pour produire, transformer et emballer les aliments qui se retrouvent dans nos assiettes. En choisissant des produits d'ici, on encourage nos agriculteurs, pêcheurs et transformateurs alimentaires locaux et, en retour, ceux-ci assurent la pérennité des traditions et des saveurs de chez nous. Il y a beaucoup à gagner à choisir des produits d'ici. La consommation locale assure que les retombées économiques demeurent dans les poches des producteurs locaux. Le beurre produit au Québec, par exemple, génère des profits qui seront dépensés dans la province via le salaire des employés, les impôts, l'achat d'autres produits locaux. Comme quoi, il est possible d'avoir le beurre et l'argent du beurre. N'oublions pas qu'en favorisant les aliments du Québec, on contribue aussi à développer notre autonomie alimentaire. Et ça, c'est une bonne chose. Quand on sait à quel point nous avons de beaux produits dans notre province. Pour aider l'environnement. Opter pour des produits d'ici peut donner un coup de pouce à Mère Nature. Il faut toutefois demeurer prudent. Acheter local ne garantit pas toujours qu'on fait le choix le plus écologique. En effet, de nombreux facteurs entrent en ligne de compte. Le type d'aliment et le moment de l'année, par exemple. Cela dit, en saison, optez pour une tomate québécoise plutôt que pour sa comparse qui vient de l'extérieur réduit le nombre de kilomètres alimentaires, le nombre de kilomètres parcourus par un aliment, et diminue l'emballage nécessaire. Il s'agit donc d'un choix judicieux et délicieux. Parce que c'est accessible. Contrairement à ce qu'on a tendance à penser, manger local, ce n'est pas compliqué et il existe plusieurs façons de se procurer des produits d'ici. Vous pouvez consommer directement des producteurs grâce au marché public, au kiosque ou à l'autocueillette. Vous pouvez aussi trouver vos produits québécois favoris dans certains supermarchés. D'ailleurs, pas besoin de se ruiner pour consommer local. Les produits affichant le logo d'Aliments du Québec se retrouvent chez Maxi, une épicerie reconnue pour ses bas prix. Pour le plaisir. Finalement, la meilleure raison de consommer des aliments du Québec, c'est qu'ils sont bons. Tout simplement. Notre province est riche d'une panoplie de territoires qui portent chacun leur saveur et qui évoluent au fil des saisons. On serait fou de ne pas en profiter. C'était 6 bonnes raisons de choisir les aliments de chez nous. Un texte de Daphné Laurier-Ouellette, paru le 29 mai 2026 dans le magazine Urbania.
Vos vues. Vues pour véhicules utilitaires sport. C'est le titre d'une chronique signée Émilie Nicolas et publiée dans Le Devoir du 16 avril 2026. En sous-titre, on fonce dans le mur, la pause de l'attaque sur l'essence, le recul à peine de quelques mètres. Je sais que je ne vais pas me faire d'amis cette semaine. C'est que je calcule qu'il est probablement encore plus facile dans cette province de parler de polémiques sociales ou de la guerre dans le monde que de critiquer l'addiction collective, pourtant profondément nocive, aux véhicules utilitaires sport. J'y pense particulièrement depuis que l'attaque israélo-américaine contre l'Iran a relancé tout le débat sur le coût de l'essence. Bien sûr, le prix du baril de pétrole a augmenté. Bien sûr, c'est difficile pour les ménages déjà étouffés par le coût de la vie qui a explosé de mille et une manières dans les dernières années. Bien sûr, c'est aussi un enjeu facile à comprendre, à vulgariser et surtout à visualiser. Partout, sur le bord de nos autoroutes, au cœur de nos villes, il y a ces immenses panneaux avec de grands chiffres rouges dont la valeur grimpe et descend. En fait, grimpe surtout. Rien de plus facile pour un téléjournal que de capter ces images de chiffres rouges géants et d'interviewer les gens qui regardent les chiffres qui ont encore grimpé pour leur demander leur avis alors qu'ils peinent à payer le plein de leur voiture, trop souvent trop grosse. Je le répète, ne me lancez pas tomato vite. Je comprends que la pression du prix de l'essence sur le coût de la vie est bien réelle. C'est que, comme locataire sans voiture, je m'avoue jalouse, voyez-vous. Je me demande ce qui arriverait si nos quartiers étaient aussi parsemés d'immenses panneaux qui affichent en chiffres rouges géants le prix moyen des appartements disponibles dans les environs, au pied carré. Je me demande si les journalistes se rueraient sur les familles à la recherche d'un toit qui commentent le prix qui ne cesse de grimper rassemblés autour des immenses panneaux aux chiffres rouges du coin. Je me demande si, tout d'un coup, avec ce support visuel, la classe politique verrait l'étouffement financier des locataires comme un problème politique urgent. On trouverait aussi le moyen d'imaginer des rabais, une pause de hausse des prix, une ingéniosité fiscale, quelque chose, quelque part. Si notre étouffement à nous devenait soudainement plus visible? Je vous implorais de ne pas me lancer de tomates, mais encore faut-il avoir les moyens d'en lancer. Si c'était les prix des aliments de base qui étaient affichés en chiffres rouges géants partout dans nos villes, trouverait-on aussi, comme ça, magiquement, des solutions plus courageuses à l'insécurité alimentaire qui assaille pourtant les ménages les plus pauvres? Mais dans l'architecture de nos quotidiens d'Amérique, c'est le prix de l'essence qui nous est visuellement le plus évident, et c'est là où la pression politique est la plus forte. Le gouvernement Carney a annoncé mardi qu'il soulagerait les ménages en suspendant l'une des taxes fédérales sur l'essence jusqu'en septembre. On parle d'une baisse des prix d'une dizaine de cents le litre. C'est tant mieux, bien sûr, pour les ménages que ça aidera. J'espère que l'on comprend tout de même que c'est loin d'être une mesure progressiste. Les agriculteurs et les professionnels qui n'ont d'autre option que de conduire des véhicules lourds en profiteront. On en parle avec raison et aussi pour camoufler qui d'autre en profite. Les gens de la classe moyenne supérieure qui se sont achetés ou loués en masse des véhicules bien trop gros sans raison valable. On ne parle pas non plus de ceux qui, à la fin du mois, n'auront pas beaucoup plus d'argent dans les poches avec une telle mesure. Les gens qui roulent déjà dans des voitures plus petites et les gens sans voiture, surreprésentés parmi les personnes les plus vulnérables à la hausse du coût de la vie. Ce qui est le plus choquant à entendre, ce sont les arguments des conservateurs pour une pause de taxes sur l'essence. Les coffres du gouvernement se renfloueraient indûment pendant que les gens en arrachent, nous explique-t-on. Cette image des coffres de l'État qui débordent soudainement contraste fortement avec le discours sur l'austérité auquel les élus aux tendances conservatrices nous ont habitués, tant au provincial qu'au fédéral. Si j'ai bien compris leur vision, il faudrait absolument faire des compressions dans les services publics et le filet social, car nous avons une dette à payer et un équilibre fiscal à atteindre. Sauf que si la hausse du prix mondial de l'essence fait augmenter temporairement les revenus de l'État de manière imprévue, il serait très mal d'en faire autre chose que d'aider les gens qui possèdent de grosses voitures à continuer de se permettre de vivre en ayant de grosses voitures. C'est une logique implacable. Le résultat, c'est de retarder la réflexion collective que l'on devra un jour avoir sur l'effet d'addiction collective aux véhicules utilitaires sport, tant sur l'environnement que sur nos infrastructures. Parenthèse, on comprend que plus les véhicules sont gros et lourds, plus il y a de nids de poule. Fin de parenthèse. On fonce dans le mur. La pause de la taxe sur l'essence le recule à peine de quelques mètres. Nos élus auraient pu proposer une taxe exceptionnelle sur les bénéfices, ce qu'on appelle en anglais les « windfall tax », des compagnies pétrolières. Parce que grâce à la crise géopolitique, ces multinationales augmentent leurs profits de manière imprévue. En réduisant ou en supprimant les taxes sur l'essence, les gouvernements occidentaux se privent de revenus importants pour laisser les pétrolières engranger des surprofits et pour en absorber l'effet sur les consommateurs, alors qu'ils auraient pu décider de plutôt taxer les surprofits pour les redistribuer de façon équitable et progressiste à leur population. La décision de faire l'un plutôt que l'autre en dit très long sur les limites de nos imaginaires politiques. Les États préfèrent saboter leurs revenus pour compenser la guerre de Trump plutôt que de collecter la richesse des grandes entreprises pour mieux la repartager. Ce faisant, ils nous expliquent de manière très pédagogique comment l'hégémonie capitaliste fonctionne. Fin de ce texte d'Émilie Nicolas, titré « Vos vues, VUS », texte publié dans Le Devoir du 16 avril 2026.
Les extraterrestres sont parmi vous. Un texte de Marie-Hélène Poitras, paru le 5 mai 2026 dans Le Devoir. Suggestion de lecture sur la neurodivergence pour qu'ils puissent avancer sans masque et sans craindre de déplaire. Le dévoilement des lauréats du Prix des libraires du Québec a eu lieu à la fin avril et j'ai envie de braquer la lumière sur l'œuvre primée dans la catégorie littérature adolescente. Il s'agit des « Différences invisibles » de Maude Nepveu-Villeneuve. Réglons tout de suite un détail qui me semble important. Oui, les adultes peuvent lire des œuvres destinées à un jeune public. C'est enrichissant, souvent même amusant. Essayez-le, vous verrez. Le petit livre « Mauve » de Maude Nepveu-Villeneuve est paru chez Éco-Société dans la collection Radar, connue pour ses essais destinés aux adolescents. Sur la page couverture, en bas à droite, le sous-titre précise le tir. TDAH, douance ou HPI, autisme, vivre avec un cerveau neurodivergent, ça ressemble à quoi? Bon, je vais devoir me mouiller un peu dans cette chronique. Allons-y. Depuis toute petite, je me sens en décalage par rapport aux autres. Pas meilleure, pas plus intelligente ni plus rapide, juste différente. C'est comme si tout le monde dansait au même rythme, mais que dans ma tête, j'en entendais un autre. Pour ne pas déranger ni attirer l'attention, j'ai appris tôt, comme bien des petites filles, à danser comme les autres en les observant. D'ailleurs, je suis plutôt bonne à ce jeu-là. Le subterfuge a longtemps fonctionné. Les années passaient et les autres n'y voyaient que du feu. Mais le fait de ne pas être vraiment qui je suis et de porter un masque a fini par m'épuiser. Un jour, j'ai eu besoin de mieux comprendre ce qui se passait. Je vous épargne les détails, mais au bout d'une démarche qui aura duré plusieurs années, on m'a envoyé me faire évaluer chez un neuropsychologue. J'ai donc passé le test WAIS-4 ou Wechsler Adult Intelligence Scale, outil standard de mesure des capacités cognitives. Ce test m'a permis de découvrir que j'avais un QI de 130 et plus. Le QI moyen est de 100, avec un cerveau qui fonctionne différemment. En d'autres mots, je suis une personne à haut potentiel, avec une douance, un zèbre, une HP. Appelez ça comme vous voudrez, mais évitons de dire « surdoué », un qualificatif qui n'envoie pas toujours le bon message. Pour diverses raisons, plus d'informations circulent aujourd'hui sur les personnes neuroatypiques. Des gens comme moi découvrent par la bande leur neurodivergence, HPI, TDA, autisme, etc., en faisant évaluer leurs enfants. Lorsqu'on m'a expliqué comment mon cerveau fonctionnait, ce que ça impliquait, surtout comment prendre soin de moi à travers cette particularité, ma vie a changé complètement. C'est comme si j'avais été plongé dans le noir depuis toujours sans le savoir et que, tout à coup, quelqu'un avait allumé la lumière. Une blague qui revient souvent dans les groupes neurodivergents en ligne dit, en gros, que la neurodivergence n'est considérée que lorsqu'elle devient un inconvénient pour les autres. Autrement dit, si une personne neurodivergente ne pose pas de problème à son entourage, ses difficultés ne seront pas prises en compte et elle ne recevra probablement ni diagnostic ni mesure d'aide, lit-on dans « Les différences invisibles ». En lisant sur le sujet, j'ai non seulement appris à composer avec ce que j'appelle ma force fragilisante, j'ai aussi, enfin, retiré mon masque. Le petit livre « Mauve » de Maude Nepveu-Villeneuve fera, j'en suis convaincu, œuvre utile et beaucoup de bien aux neurodivergents qui vivent parmi nous et à celles et ceux qui les accompagnent sur ce chemin. Voici d'autres œuvres qui leur permettront de se sentir moins seuls, moins désespérés et mieux outillés. En poésie, « Tête boule disco » Boréal, de Noémie Pomerleau-Cloutier. Je l'offrirai à un cerveau atypique pour l'aider à panser ses blessures, mais aussi, surtout, lui donner envie de déployer toute la flamboyance de ses capacités. Ce livre a obtenu le prix littéraire des enseignants de français 2025 dans la catégorie poésie. Dans les mains d'un enfant autiste, je mettrai « Laurent, c'est moi ». Fonfon, un texte de Stéphanie Deslauriers illustré par Geneviève Després, qui aborde sans détour le sujet de l'autisme et la question des intérêts spécifiques. À une jeune femme autiste, elle aussi, j'apporterai « Femme caméléon ». K.O. Édition, un autre joli ouvrage mauve. Indigo, celui-là. Son autrice, Mélissa Perron, récolte un succès fou avec ce livre, maintes fois réimprimé depuis sa parution au printemps 2025. Elle aussi, comme de nombreuses femmes de sa génération, a reçu un diagnostic tardif. L'autrice manie aussi bien le crayon pour écrire que pour dessiner. Elle signe un roman graphique auto-bio qui permet au lecteur de bien saisir comment s'articule la pensée autiste. J'aime tout particulièrement les pages consacrées à la synesthésie, ce désordre bénin du traitement des informations sensorielles qui associe les chiffres ou les lettres à des couleurs. À un jeune TDA, j'offrirai « Ma maison-tête, Fonfon » de Vig, un album illustré absolument exceptionnel qui réussit à communiquer toute la complexité du trouble déficitaire de l'attention. Dans les mains d'une ado cool et un peu rebelle, je glisserai « Épicé », hurlante éditrice, d'Ariane Baudry, pour lequel j'ai eu un vrai coup de cœur. Ce recueil de poésie donne à lire le monde intérieur d'une jeune femme qui explore sa double exceptionnalité, douance et TDAH. Je lui proposerai aussi de visionner la série The Queen's Gambit, d'aller voir le spectacle de l'humoriste Coco Béliveau intitulé Cocologie et lui ferai découvrir le balado Apparaître, la neurodivergence invisible. Narré par Stéphanie Boulay et réalisé par Marie-Pierre Bouchard, qui a décroché l'or au Canadian Online Publishing Awards et une nomination sur la liste courte des New York Festival Radio Awards, catégorie Narrative Documentary Podcast. Mais pourquoi lirais-je tout ça? En quoi ça me concerne, vous demandez-vous peut-être à la lecture de cette chronique? Pour que les petits extraterrestres qui vivent parmi nous puissent avancer sans masque et sans craindre de déplaire. Parce qu'elles et eux font l'effort de s'adapter à l'autre monde, celui que l'on dit normal ou neurotypique. Pour que ces personnes ne soient plus confinées à l'invisibilité. Pour qu'elles puissent réaliser, elles aussi, leur plein potentiel. C'était « Les extraterrestres sont parmi vous ». Un texte de Marie-Hélène Poitras, paru le 5 mai 2026 dans Le Devoir.